C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes ? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert ? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a dream.
Hello, c'est Charles Cécile. Alors vous vous souvenez, à la dernière émission, pour les petits chanceux qui l'ont écouté, nous avions laissé deux conteuses en pleine conversation dans un appartement de la butte Montmartre. Il s'agit d'Angèle Goduchot et de la dame de la rue Lepic, alias la conteuse Anikis. Alors quand deux conteuses se rencontrent, vous savez ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles se racontent, des histoires de contes, de littérature orale et tutti quanti. Annie Kiss, c'est une femme qui est très liée au renouveau du conte. Elle y a consacré une bonne partie de sa vie. Depuis 40 ans, sans relâche, elle a accompagné le développement de cette discipline. Bon, en bref, une heure délicieuse en compagnie d'Annie Kiss.
Moi, je connais pas.
Dis donc, je comprends comment tu restes en forme, hein, parce qu'il y a... Il y a des escaliers quand
je les monte plus, hein. Je prends
comment
le minibus.
Tu fais un minibus ?
Ben oui, je t'avais dit que si tu voulais, tu aurais pu le prendre, mais on
attend. Ah, et ça t'évite les marches.
Ben voilà, mais on attend quelquefois très longtemps. Mais comme tu es jeune et
ça fait du bien.
Non, mais tu peux poser là-dessus. Non, mais je sais, je savais qu'il y avait des marches. Dans le temps, je les montais avec les bagages, avec tout, parce qu'il n'y avait pas le minibus avant, mais maintenant, il fait le tour de la butte, quoi, si tu veux.
Alors, me voilà dans ton ordre. Donc, tu m'as tellement, tellement parlé.
C'est un vrai capharnaüm.
T'es là depuis combien, 40 ans, non ?
Oui, 43 ans que je suis là. Tu veux un cintre peut-être
Oh, bah non, tu posais ça là. Non, t'embêtes pas.
Oh non, mais mon appartement est de plus en plus encombré. C'était une catastrophe. En plus, quand ils m'ont refait l'électricité, j'ai pas eu le courage. Je pourrais refaire un peu tout. C'est terrible. Puis j'ai pas de confort, quoi. J'ai pas de douche.
Oui, c'est ça que tu avais dit.
Mon chauffe-eau est fichu.
Pourquoi tu leur demandes pas de le réparer ?
Attends, je là-haut, tiens. Tout compte fait, je me dis, j'ai des bouilloires et pendant que l'eau chauffe, ça chauffe la cuisine aussi, puisque c'est là que je fais. Le matin, il fait pas chaud, tu vois. Alors, vas-y, rentre, je t'en prie.
Super.
Voilà mon unique pièce habitable.
C'est mignon ! Alors là, t'as une vue incroyable.
Et je n'ai qu'un siège.
Tu m'as dit ça.
Parce que les autres...
Je vais m'asseoir sur ton.
Ouais. Alors,
c'est magnifique.
Tour Montparnasse pour te dire, elle est là-bas, tu vois.
Mais j'ai vu sur le pont.
Je suis à l'opposé, mais hey, c'est la ligne directe.
Oui, la ligne directe.
La 12, elle va directe.
Voilà. Et alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir manger au Moulin de la Galette. Ils ont un groupe, ces imbéciles. Alors, elle me dit, oh non, c'est pas possible. Alors, on va essayer de trouver un troquet.
Bistrot,
ce qu'on peut faire, c'est descendre vers Abbesse, parce que l'Abbesse, c'est la même ligne. Là, il y a plein d'endroits où on pourra manger.
C'est très beau chez toi.
Bah, oui, évidemment. Là tu as
les toits, toute la...
Malheureusement, il ne fait pas beau, mais quand il fait beau, je vois des couchers de soleil absolument faramineux. Là, on ne le voit pas presque, mais il y a le... comment ça s'appelle? Le dôme... Tu vois, des Invalides, tout en or.
Là, avec le soleil, là.
Ah ouais, c'est magnifique.
Et là, tu vois les Invalides.
Tu vois de Notre-Dame. Tu vois... Notre-Dame à gauche, normalement.
Notre-Dame à gauche, la Tour Eiffel, les Invalides. Et à droite, c'est quoi ça?
L'Arc de Triomphe. Et puis là-bas, la Défense, à droite. Tu vois. Parce que là, la rue qui est juste derrière, c'est presque une impasse. Tiens, il y a la maison de Dalida à droite.
Là-bas. C'est quoi la maison de
De Dalida. On voit même la chambre où elle s'est suicidée.
C'est laquelle,
la blanche,
la maison
là.
C'est ça
la maison.
Ah, c'est beau.
La maison toute seule là.
Très étonnante là avec son toit.
Ouais.
D'accord.
Et alors, il y a une, c'est une espèce de toute petite ruelle, donc il n'y a pas de voiture qui passe. Après, c'est beaucoup plus bas, et la rue des Abbesses, elle est vraiment en bas. Là, il y a de la circulation, donc j'entends pratiquement pas de bruit, tu vois.
Et quand il y a du soleil, j'en ai toute la journée.
Alors voilà les peintures de ton mari.
Voilà les peintures de mon mari et les sculptures. Parce que
il était sculpteur aussi.
Tu vois tout ça, il a fait ça avec des boîtes de conserve, etc. Mais moi, je trouve ça très bien.
Ah bah ouais.
C'est dommage que ça ne soit pas agrandi. Et bon, il en a fait plein.
Quoi, agrandi?
Même en terre cuite. En fait. Ouais.
Ah, c'est super. Ben alors du coup, ça fait une vraie caverne d'Ali Baba.
Bah, oui, c'est un peu encombré, c'est ça le problème, quoi, tu vois.
Ah, j'adore ces choses en métal, là.
Ouais, mais il faisait des très belles sculptures. Je trouve même que je préfère presque ses sculptures à ses tableaux. Encore qu'il y a des tableaux que j'aime beaucoup de lui, mais j'aime bien celui-là, par exemple. Ouais, il y en a. C'était toujours de l'abstrait ou presque, alors qu'il dessinait.
Ce petit-là, il est très beau aussi.
Oui, oui, mais il y en a des vachement bien. Hein, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que ça va devenir, tu vois, parce que. Quand je vais disparaître, ben c'est à vous, je ne sais pas ce qu'il
faut. Il faut les donner à... Il n'y a pas un...
Je suis toujours chez Anikis. Je me sens très privilégiée d'être invitée dans ce minuscule palais des merveilles avec des centaines de livres partout, des peintures, des tableaux du mari de Annie, des tableaux et aussi des sculptures, pour certaines très belles, et puis des objets de toutes sortes. Je suis confortablement assise sur le lit d'Annie avec tout mon matériel pour enregistrer et elle s'apprête à raconter et je m'apprête à écouter mon histoire préférée, l'histoire du mariage de Gauvin.
Tu me racontes le mariage de Gauvin ?
Oui.
Cette année-là, le roi Arthur avait décidé de passer les fêtes de Noël au château de Carlisle, près de la forêt d'Englewood. Il était donc arrivé au château avec son épouse, la reine Guenièvre, tous ses compagnons, les chevaliers de la table ronde, et toute sa cour. Chaque soir, c'était de grands banquets, la musique, la danse, des jeux de toutes sortes. On s'amusait bien à la cour du roi Arthur. Et dans la journée, le roi et ses chevaliers s'en allaient chasser dans la vaste forêt d'Englewood, qui entourait le château de Carlisle. Cette forêt était immense et très sauvage. Dans le pays, personne n'osait s'y aventurer de peur de ne pas pouvoir en ressortir. Le roi Arthur et ses compagnons pouvaient donc s'y livrer à leur occupation favorite sans craindre de faire de mauvaises rencontres. Un jour, c'était juste au milieu de la semaine, entre Noël et le jour de l'an, le roi Arthur était parti chasser avec ses compagnons. Ses chiens avaient levé un cerf, un jeune cerf vigoureux, rapide, qui fuyait à travers la forêt, poursuivi par les chiens. Le roi galopait derrière lui, espérant le rejoindre, mais toujours le cerf lui échappait, disparaissant dans les taillis, ressortant un peu plus loin, toujours plus loin. Le roi était si passionné par sa poursuite acharnée qu'il n'avait pas remarqué que ses compagnons ne l'avaient pas suivi. Ils étaient restés loin derrière lui. Et toujours le roi galopait. Mais bientôt, le cerf a disparu dans les fourrés et le roi Arthur s'est retrouvé seul. Il a arrêté son cheval, a regardé autour de lui. Il ne s'était jamais aventuré aussi loin dans la forêt d'Englewood. Il se trouvait dans une clairière qu'il ne connaissait pas. Devant lui, s'étendait un marécage. Le soleil couchant mettait comme des flaques de sang dans les eaux stagnantes. De l'autre côté du marécage se dressait une sombre pinède. Et là, sous le couvert des arbres, Arthur a cru distinguer une silhouette, celle d'un cavalier qui l'observait de loin. Son armure et ses armes étaient noires, et son cheval aussi noir que la nuit. Et voilà que le chevalier noir a lancé son cheval à travers les eaux boueuses et s'est avancé vers Arthur, la lance menaçante. « Ah, Arthur Pendragon, je suis heureux de te rencontrer. Défends ta vie et ta couronne si tu peux, sinon je te tuerai. » Et déjà le chevalier noir appuyait sa lance sur la poitrine d'Arthur. Aussitôt Arthur a mis la main au côté pour sortir son épée, sa grande épée Excalibur, son épée magique qu'il avait toujours sauvée de tous les dangers. Mais il ne l'avait pas. Il l'avait laissée au château de Carlisle. Il était seulement venu chasser. Et la lance noire s'apprêtait à transpercer son cœur. Le roi Arthur s'est senti aussi démuni, aussi faible qu'un bébé qui vient de naître. Il sentait son sang s'échapper de ses veines. Mais que pouvait-il faire pour sauver sa vie? Mais bientôt, le chevalier noir a abaissé sa lance. « Non, rassure-toi, Arthur, je ne vais pas te tuer ainsi alors que tu es sans défense. Je préfère m'amuser. Je te donne rendez-vous ici, dans 3 jours, le jour de l'an précisément, et tu devras répondre à la question que je vais te poser. Si tu trouves la réponse, je disparaîtrai pour toujours et tu ne me verras plus jamais. Mais si tu ne trouves pas, alors je te tuerai sans pitié. » Et je deviendrai roi de Bretagne à ta place. Voici ma question. Qu'est-ce qu'une femme désire le plus au monde? Bonne chance! Et tout en ricanant, le chevalier noir s'est éloigné sous le couvert des arbres. Arthur a eu du mal à reprendre ses esprits. Enfin, il était sain et sauf, pour l'instant. Il comprenait bien qu'il se trouvait dans un lieu maudit, et que ce chevalier noir n'était pas un adversaire ordinaire. Arthur est reparti, songeur, à travers la forêt. Il lui fallait maintenant trouver la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une femme désire le plus au monde ?» Eh bien, il allait interroger toutes les femmes qu'il rencontrerait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a d'abord croisé une gardeuse d'oies qui rentrait ses volailles à la ferme, puis une abbesse qui regagnait son couvent. Et en entrant dans la ville, la grasse épouse d'un marchand entourée de toutes ses servantes. Arthur a posé sa question. Et croyez-vous qu'il a reçu une réponse unique? Bien sûr que non. Autant de femmes, autant de réponses différentes. Arthur a commencé à se dire que ce ne serait peut-être pas si facile que ça. C'est bien préoccupé qu'il est rentré au château de Carlisle. Il ne voulait pas inquiéter son épouse ni ses proches. Aussi, il est allé s'asseoir au fond de la grande salle, le menton sur les mains, et il est resté là, silencieux, à contempler le feu dans la grande cheminée. Son épouse, la reine Guenièvre, est venue le rejoindre. « Les femmes sont intuitives, dit-on. » La reine s'est agenouillée devant lui, elle lui a pris les mains. « Mon cher époux, vous avez l'air bien soucieux. La chasse ne semble pas vous avoir réussi. » « Oh, ce n'est rien !» finit par répondre Arthur. « C'est que j'ai rencontré dans la forêt un chevalier inconnu qui m'a mis au défi de trouver, dans les 3 jours, la réponse à une question qu'il m'a posée. Je cherchais la réponse. »« Et quelle est donc cette question ?»« Eh bien voilà, le chevalier m'a demandé « Qu'est-ce qu'une femme désire le plus au monde ?» Pendant qu'Arthur parlait, les dames de la cour s'étaient approchées dans un froufrou de soie, de velours et de brocart, et elles entouraient maintenant le roi dans leurs vêtements chatoyants. Toutes ont voulu donner leur avis. « Pour moi, dit la première, ce qu'une femme désire le plus au monde, c'est l'amour. « Non, le mariage, dit la seconde. « Les enfants, a dit la troisième. La quatrième ajoute, « Pour moi, c'est plutôt la beauté. « Oui, mais si on n'a pas la santé, renchérit la cinquième. Une autre a parlé de pouvoir, une autre encore d'élévation spirituelle. Une femme déjà âgée souhaitait un jeune mari. Enfin, aucune n'était du même avis. Le roi Arthur a compris qu'il était perdu, que jamais il ne trouverait la réponse à la question du chevalier noir. Il allait perdre sa vie et son royaume sans savoir comment les défendre. Il n'a guère dormi cette nuit-là, pas plus que les deux qui ont suivi. Et le matin du jour de l'an, il est monté à cheval et tristement, il a pris le chemin de la forêt. Un roi n'a qu'une parole. Il savait qu'il allait à une mort certaine, puisqu'il n'avait pas la réponse. Il avançait au pas, tête basse, sur un sentier herbeux, quand il a entendu derrière lui « Arthur !» Le roi Arthur s'est retourné. Il a aperçu, un peu en retrait, une forme rouge assise sur une souche d'arbre. Arthur a fait tourner bride à son cheval et il est revenu sur ses pas. Mais quand il a découvert le personnage, de saisissement, il a failli tomber de sa selle. C'était apparemment une vieille femme, mais la plus laide, la plus horrible, la plus repoussante qu'Arthur ait jamais vue. Une vraie figure de cauchemar. Son visage, c'était un groin de cochon. Sous son énorme nez épaté, s'ouvrait une large bouche fendue d'une oreille à l'autre, parsemée de dents longues et jaunes comme des dents de cheval. Ses pauvres joues blêmes étaient couvertes de plaies. Elle avait un œil fermé, l'autre chassieux, tout sanguinolent, des oreilles en feuilles de chou, et sur son crâne dégarni pendaient çà et là quelques mèches graisseuses. Son corps était difforme et boursouflé, et ses mains, pourtant ornées de très belles bagues, étaient aussi noueuses que les racines d'un vieux chêne. Malgré cela, elle était fort bien vêtue d'un manteau écarlate bordé de zibeline. Le roi Arthur se tenait là devant elle, pétrifié d'effroi. Alors la vieille femme l'a regardé. « Eh bien, Arthur, qu'y a-t-il donc? Tu as l'air bien désemparé. »
Non, ce n'est rien, madame, simplement je ne m'attendais pas à vous voir ici. »
Mais comme tu as l'air préoccupé, Arthur, confie-moi tes soucis, je connais tant de choses, mon savoir est immense, j'en ai aidé plus d'un avant toi. » Le roi Arthur s'était ressaisi, voyant la vieille sorcière dans de bonnes dispositions à son égard. Il a mis pied à terre, s'est approché d'elle et lui a raconté sa mésaventure. Sa rencontre avec le chevalier noir et la question que celui-ci lui avait posée.
« Je connais la réponse, » dit la vieille monstrueuse. « Approche, Arthur, je vais te la confier. Mais en échange, tu devras me donner ce que je te demanderai. »«
Vous avez ma parole, » dit Arthur. « Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. »«
Bien. Approche encore.
Je n'ai jamais mordu personne. »
Et la vieille a susurré quelques mots dans l'oreille du roi.
Saying no to where we're she smiled as she passed me with her goods and her gear. That was the last that I saw of my dear. I dreamt it last night that my true love came in. So softly she entered, her feet made no din. She came close beside me, and this she did say: "It will not be long, love, till our wedding day."
Et la vieille a susurré quelques mots dans l'oreille du roi. Aussitôt, Arthur a su que c'était la bonne réponse et qu'il était sauvé. Il allait s'éloigner, mais la vieille l'a retenu par la manche de son pourpoint. « Arthur, je t'ai donné la réponse. Tu dois accéder à ma demande. Je veux épouser un de tes chevaliers.
Oh » Arthur a eu un mouvement de recul. « Mais c'est impossible, madame. Mais vous n'y pensez pas. Jamais je n'oserais imposer cela à l'un de mes compagnons. »
« Et pourquoi donc ?»«
Eh bien, parce que... »«
Arthur, un roi n'a qu'une parole. »«
Bien, madame. Demain, je reviendrai ici avec votre futur époux. »
Arthur est remonté sur son cheval pour rejoindre le chevalier noir qui l'attendait dans la sombre pinède. Bien sûr, il avait la réponse, mais à quel prix l'avait-il obtenue ? C'est vraiment plein de honte qu'il avançait à travers la forêt. Enfin, il est arrivé au bord du marécage. Le chevalier noir était là-bas, dans la sombre pinède, sa lance noire dressée en un salut moqueur. Le chevalier noir a traversé les eaux stagnantes.
« Alors, Arthur Pendragon, as-tu la réponse à ma question ?»
Arthur, très calmement, a répondu « Oui, j'ai la réponse. » Alors, un grand silence s'est installé autour de lui. Pas un froissement de feuilles, pas un cri d'oiseau, pas un crissement de harnais. Le monde entier semblait retenir son souffle, attendant la réponse.
« Ce qu'une femme désire le plus au monde, c'est faire ce qui lui plaît, c'est être maîtresse de sa destinée. »
Le chevalier noir a poussé un hurlement qui a retenti dans toute la forêt. « Maudit sois-tu, Arthur ! Puisses-tu aller brûler en enfer avec celle qui t'a si bien conseillé ? Tu m'as privé de ma récompense !»
Et, poussant un nouveau hurlement, le chevalier noir a disparu dans un galop furieux sous la sombre pinède.
Arthur était soulagé.
Il avait sauvé sa couronne et sa vie. Mais maintenant, comment accomplir le reste de son épreuve ? Comment s'y prendre pour annoncer à ses compagnons la requête de cet épouvantail? C'est encore plus soucieux et embarrassé qu'Arthur est revenu au château de Carlisle. De nouveau, la reine Guenièvre a rejoint son mari devant la grande cheminée.
« Mon cher époux, je vous vois bien triste de nouveau. Me direz-vous le sujet de cet accablement ?»
Alors Arthur a fini par dire « Je ne sais pas comment défendre mon honneur. »
Gauvin se trouvait non loin de là. Il jouait aux échecs avec l'un de ses compagnons. Entendant les paroles du roi, il se lève d'un bond, renversant l'échiquier et toutes les pièces qui le recouvraient.
« Je suis prêt à défendre l'honneur de mon roi. »«
Oh non, pas toi, Gauvin, tu ne sais pas ce qui t'attend. »
Le roi aimait beaucoup Gauvin. C'était le plus jeune de ses chevaliers, toujours prêt à servir sa cause. Arthur regardait son beau visage ingénu. « Alors, bien à contre-cœur,
Arthur a raconté ce qui lui était arrivé. Le défi du chevalier noir, comment il avait obtenu la réponse et à quel prix. Au fur et à mesure qu'il parlait, qu'il décrivait la vieille monstrueuse, Gauvain se décomposait. Il était maintenant plus pâle qu'un mort. Les autres chevaliers s'étaient approchés. Ils entouraient Gauvain et le roi Arthur. Ceux qui étaient mariés considéraient leur épouse avec beaucoup de reconnaissance. Et ceux qui étaient célibataires priaient le ciel pour que Gauvain ne faiblisse pas dans sa détermination. Mais Gauvain, lui aussi, n'avait qu'une parole. « J'irai demain dans la forêt chercher ma future épouse. » On n'a guère dormi cette nuit-là au château de Carlisle. Le lendemain matin, par une belle journée d'hiver, c'est une bien triste cohorte qui s'est mise en route sous le ciel sans nuages. On avait amené une litière richement décorée pour conduire la future épouse au château. Elle était là, l'horrible femme, toujours assise sur sa souche, avec son manteau écarlate. Tout le monde a mis pied à terre, mais quand les chevaliers ont aperçu la dame, ils sont restés sans voix, interdits devant tant de laideur. Sauf le sénéchal qui s'est exclamé « Arthur, mais c'est impossible! Mais nous ne pouvons pas emmener une telle horreur à la cour! Plus personne n'aura d'appétit et on ne pourra plus s'amuser! Tais-toi, Kay !» dit Arthur. Gauvain s'était approché d'elle. En la voyant, il a eu comme un malaise. C'était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Mais prenant sur lui, il a mis un genou en terre et sans la regarder, il lui a dit « Madame, me ferez-vous l'honneur de m'accorder votre main ?» La vieille dévisageait Gauvain de son œil unique, tout sanguinolent. « Oh non, pas toi, Gauvain. Tu es seulement venu pour te moquer de moi. Toi, le plus jeune des chevaliers, dont on chante les exploits dans toute la chrétienté et dans tout le pays, toi qui as toute la vie devant toi, tu ne vas pas t'embarrasser d'une vieille sorcière comme moi. Tu te moques de moi. » Mais la vieille a bien vu dans les yeux de Gauvain qu'il ne mentait pas. Alors elle lui a tendu sa main noueuse, et il a réussi à la soulever avec difficulté. Elle était lourde et elle boitait. Gauvain l'a conduite tant bien que mal jusqu'à la litière, l'a installée, et toute la troupe a pris le chemin du retour. En arrivant en ville, le long des ruelles tortueuses, la pauvre femme cachait son horrible visage derrière ses mains et ses vêtements. Mais arrivée au château, elle a dû se montrer à visage découvert, et elle entendait autour d'elle les cris d'horreur ou d'indignation, les exclamations, les moqueries, et elle aurait voulu disparaître sous terre. La seule qui ne semblait rien remarquer, c'était la reine Guenièvre. Elle a embrassé cette femme hideuse sur ses pauvres joues couvertes de plaies, lui a souhaité la bienvenue et lui a fait cadeau d'une magnifique robe de velours rouge et de très beaux bijoux. Ça n'a rien arrangé. Le roi Arthur a décidé que les noces auraient lieu le jour même. Inutile de faire traîner les choses. Après la cérémonie du mariage, on s'est attablé pour le festin de noces. Mais personne n'avait d'appétit. On ne pouvait détourner les yeux de l'horrible dame qui déglutissait bruyamment, qui bavait, rotait, faisait toutes sortes de bruits incongrus. Et puis les musiciens ont commencé à jouer. Alors, Gauvain, qui jusque-là semblait prostré, pâle et défait, a retrouvé ses esprits. Il s'est levé, a entraîné sa monstrueuse épouse, en la soulevant comme il pouvait, jusqu'au milieu de la grande salle, et a esquissé avec elle quelques pas de danse maladroits. Alors Arthur a saisi la reine Guenièvre par la main, chaque chevalier s'est pourvu d'une cavalière, et c'est un grand cortège qui maintenant dansait au son de la musique. Ainsi, les regards ne restaient pas rivés sur le couple disgracieux et si mal assorti. Et puis, au premier coup de minuit, la musique a cessé. Il était temps de conduire les nouveaux époux dans la chambre nuptiale. La reine Guenièvre et le roi Arthur les ont accompagnés. La reine a embrassé la vieille femme sur les deux joues en lui souhaitant bonne nuit. Le roi Arthur a serré Gauvain dans ses bras en lui souhaitant bon courage. Et le couple royal s'est retiré discrètement
en refermant la porte derrière lui. La chambre avait été décorée pour la circonstance. Des herbes odorantes jonchaient le sol, de douces fourrures recouvraient le grand lit à baldaquin tendu de velours rouge, un bon feu brûlait dans la cheminée. Mais Gauvin n'a rien vu de tout cela. Il est allé s'effondrer devant le feu, et la tête dans les mains, il se disait « Mais n'y a-t-il rien dans le code de la chevalerie qui pourrait m'indiquer ce que je dois faire ? Je ne vais pas rester enchaîné toute ma vie à cette figure de cauchemar !» À ce moment, Gauvin a entendu derrière lui « Gauvin, ne venez-vous pas vous coucher auprès de moi ? C'est notre nuit de noces !» Gauvin s'est mis à trembler comme une feuille. Il n'osait pas se retourner. Il a entendu des pas qui glissaient vers lui et il a senti une main se poser sur son épaule. Horrifié, il a tourné la tête et il a vu une main blanche et fine, délicate comme une pièce d'ivoire. Alors il s'est retourné d'un coup et il est resté ébloui, pétrifié d'admiration. Il avait devant lui la plus jolie créature qu'il ait jamais vue. Le visage d'un ovale parfait, le teint clair, les yeux lumineux, une chevelure d'or pâle qui cascadait sur les épaules de la jeune femme jusqu'à sa taille, qu'elle avait fine et flexible. La jeune femme a regardé Gauvin d'un air malicieux. « Vous avez l'air surpris, Gauvin. » Gauvin ne pouvait pas répondre. La jeune femme s'est approchée de lui. « Vous voyez, Gauvin ? En acceptant de m'épouser sous ma hideuse apparence, vous m'avez délivré de l'enchantement dont j'étais victime. Mais vous ne m'avez délivré qu'à moitié. Alors il va falloir choisir. Soit vous me préférez belle et séduisante toute la nuit, et dans la journée je reprendrai mon horrible apparence, ou bien je serai belle tout le long du jour pour redevenir une hideuse sorcière à la nuit tombée. Que choisissez-vous, Gauvin ? Et la jeune femme s'était reculée et le scrutait intensément. Gauvin, qui pensait à sa nuit de noces, attire la jeune femme vers lui. « Reste belle comme tu es toute la nuit, mon amour !» La jeune femme alors fait un pas en arrière. « Gauvin, je ne vous croyais pas si égoïste. Ainsi, vous accepteriez que je sois la risée de toute la cour tout le long du jour, que tout le monde se moque de moi et que je ne souhaite qu'une chose, me cacher au fond d'un trou tant ma honte sera grande. » « C'est vrai, » dit Gauvin. « Excuse-moi, je n'avais pensé qu'à moi. Alors faisons l'inverse. Reste belle toute la journée, admirée de tous à la cour, et reprends le soir ta hideuse apparence. » « Eh bien, Gauvin, est-ce là ce que je peux attendre de votre amour ? Quels vont être mes sentiments quand je vous rejoindrai dans votre lit en sachant que vous n'avez que répugnance et dégoût à mon égard? Quelle va être notre vie privée ? » Gauvin était désemparé. Il ne savait plus que répondre. Aussi finit-il par dire « Eh bien, choisis toi-même, mon amour. » « Voilà la bonne réponse !» dit la jeune femme en frappant dans ses mains. « Vous avez enfin compris, Gauvin. Une femme aime faire ce qui lui plaît. Elle aime être maîtresse de sa destinée. » « Eh bien maintenant, je suis complètement délivrée de mon enchantement et je resterai belle le jour comme la nuit. » Nous allons laisser les jeunes époux à leur nuit de noces et nous éloigner discrètement. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Le roi Arthur non plus d'ailleurs. Il se sentait si honteux, si malheureux. Il s'est levé le premier ce matin-là. Il errait dans les couloirs et les corridors. Et il était bien étonné que Gauvin s'attarde dans la chambre nuptiale. Il pensait qu'un mari aussi peu empressé aurait choisi le moindre prétexte pour s'échapper du lit conjugal. Mais quand, vers le milieu du jour, Gauvin est enfin sorti de sa chambre, sa ravissante épouse à son bras, tout le monde a compris, tout le monde s'est réjoui. On est venu de partout les embrasser et les féliciter. Et Arthur a décidé d'organiser une grande fête au château de Carlisle. La fête était somptueuse, tellement magnifique qu'on en parle encore dans le pays. D'ailleurs, si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre les lointains échos de cette fête qui sont parvenus jusqu'à nous en même temps que cette histoire.
Quand je menais les chevaux bonnes, il arrivait les fournis, il arrivait les bonnes nettes.
Nous venons d'écouter Annie raconter le mariage de Gauvin et maintenant nous reprenons l'entretien.
Après, il y a eu, j'ai voulu refaire un stage. Peut-être que là, je passais le diplôme dont j'avais pas besoin, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. J'ai demandé à faire un stage à Clamart. Alors, la bibliothèque pilote de La Joie par les livres, effectivement, la directrice étant Geneviève Patte, et il y avait évidemment Evelyne Sévin qui a commencé en même temps que moi d'ailleurs, et qui est une excellente conteuse. Alors donc, là, j'ai encore raconté, comme par hasard, une version de La Belle et la Bête, un conte russe qui s'appelle Pfinifter, le fier faucon, quelque chose comme ça, que j'ai plus raconté depuis d'ailleurs. Mais c'est encore une histoire d'un couple entre une femme et un oiseau, enfin bref. Et alors, du coup, j'ai toujours pensé que Bruno de la Salle, je ne lui ai pas demandé, mais que Bruno de la Salle était à l'origine de cette initiative qu'a pris La Joie par les livres, de proposer des journées de sensibilisation aux bibliothécaires de France et de Navarre sur le conte, sur l'intérêt de raconter des histoires avec des démonstrations. Donc ça avait lieu à Clamart, et il fallait bien trouver des gens pour raconter. Et il n'y en avait pas tellement, à part Bruno qui avait lui commencé déjà à la vieille grille, mais il n'y en avait pas beaucoup. Alors on s'est souvenu peut-être que j'avais raconté à l'heure joyeuse et que j'avais eu les conseils de Marguerite Gruny, et on m'a demandé de venir donc faire des démonstrations avec Mathilde Le Riche, même Nasser Kémir est venu et Mohamed Belalfa, oui je me souviens. On racontait devant une cinquantaine de bibliothécaires, voilà. Alors c'est comme ça que c'est parti, et lors d'une de ces séances, je me rappelle très bien que je racontais La sorcière du placard au balai, tout le monde se tire-bouchonnait, même moi d'ailleurs, et Bruno de la Salle était là, il était présent. Et à la suite de ça, eh ben, il m'a invité à participer à la première rencontre de conteurs qui avait lieu à Vannes, en Bretagne. Et on peut dire qu'on n'était qu'une poignée, franchement. Ben, il y avait Evelyne Sévin.
J'ai beaucoup entendu parler de cette...
Ah ben oui, c'était la rencontre mythique, une semaine à Vannes, entre des gens qui commençaient pratiquement tous, quoi. Il y avait déjà le théâtre à bretelles, qui dormait d'ailleurs dans le lit clos de l'écomusée. Il n'avait pas le droit, mais il dormait dans le lit clos, je me rappelle très bien. Il y avait quelques autres, enfin certains, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, d'autres ont fait leur chemin, enfin bon. Et on a passé là une semaine, on pourrait dire presque en huis clos, car le but de Bruno, c'était qu'on se raconte des histoires du matin au soir et du soir au matin, même en se lavant les dents, en mangeant, il fallait qu'on raconte. Et donc, on a... Et alors moi, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, mais de quoi je vais avoir l'air? J'avais deux histoires dans mon répertoire. Moi, je me suis dit, moi, conteuse, on me convie à une rencontre de conteurs. Alors, je me suis rapidement mise à travailler 7 ou 8 histoires pour pas avoir l'air trop bête. Et c'est comme ça que mon répertoire a commencé à se développer, en quelque sorte. Et puis, c'est parti de là. Alors, après, il y a eu aussi quelque chose de tout à fait déterminant, on pourrait dire, dans ma carrière, entre guillemets. C'est encore La Joie par les livres, encore une fois, qui a organisé à Beaubourg, dans le centre Pompidou, dans le Creux, là, dans la fosse au Lion en bas, une grande exposition de livres pour la jeunesse. Et ouais, il y avait un coin conteur. Oui, oui. C'était une très belle exposition. Et il y avait un coin conteur. J'ai toujours pensé aussi que Bruno de la Salle avait dû leur souffler ça, à mon avis. Et étant donné qu'il y avait un coin conteur, moi je me suis dit, chaque fois que j'ai un moment de libre, que je peux aller là-bas, je vais écouter les conteurs qui se produiront et j'y vais avec une nouvelle histoire. Donc ça m'a obligé de nouveau à travailler de nouveaux contes, et j'ai dû amener mon répertoire à une vingtaine d'histoires de cette façon-là. Et puis surtout, là, je me suis produite, à Clamart, on était entre bibliothécaires, mais là, je racontais en public. Et dès qu'on se met devant un public, surtout que les conteurs, il n'y en avait pas des masses, ben, les gens, ça les intéresse, ils viennent vous dire « Vous ne viendriez pas raconter à Bécon les Bruyères dans ma bibliothèque ?» Enfin, je prends un exemple comme ça. Et moi, je disais « Oui, naturellement !» Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fin de compte, ben, ça s'est tissé comme une toile d'araignée, c'est le bouche à oreille, les bibliothécaires sont souvent en réseau, donc ils se renseignent, ils m'ont recommandé sans doute, enfin j'ai commencé comme ça à aller un petit peu dans toutes les banlieues autour de Paris, comme m'a dit Mimi Barthélémy qui a fait une conférence à l'âge d'or il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a aussi des conférences à l'âge d'or. Elle m'a interpellée en me disant « Annie, tu te souviens, à l'époque, nous étions les reines des banlieues ?» C'était un peu ça, on allait dans toutes les banlieues. Maintenant, c'est les conteurs de l'âge d'or qui y vont. Alors voilà, c'est parti comme ça. Et puis voilà, et j'ai eu des occasions. Ben, après, il y a des festivals qui se sont montés. Et puis j'ai raconté dans certaines régions, beaucoup dans la région de Bordeaux, parce que là aussi, les gens se recommandent, vous voyez, bon... Et puis j'ai raconté pas mal, j'avais fait une tournée dans l'Est aussi, en Lorraine, en Alsace surtout, au moment de Noël justement, c'était très agréable. Enfin, j'ai commencé comme ça à aller à droite et à gauche, mais le problème c'est que je suis restée bibliothécaire à temps plein. À un moment, j'avais souhaité avoir un temps partiel et ils me l'ont refusé. Alors donc, c'était pas facile du tout pour moi, déjà, de pouvoir m'absenter. Donc, toutes mes vacances passaient à ça, soit animer des stages, parce qu'assez rapidement, on m'a demandé de faire de la formation, justement. Il ne faudrait pas oublier que le premier atelier de l'âge d'or, il y a 25 ou 30 ans, c'est Bruno de la Salle qui l'a fait, tout seul. Et puis après, comme il y avait beaucoup de monde, ça s'est un petit peu diversifié. J'ai animé un stage avec Evelyne Sévin, le seul qu'on a animé ensemble. Et puis, on m'a confié un atelier. Dès la deuxième année, j'avais un atelier régulier à l'âge d'or. Et puis, ça s'est encore multiplié. Et maintenant, il y a 7, 8, 10 formateurs, je ne sais pas combien exactement. Il y a maintenant des stages spécialisés sur des thèmes. Bon, voilà. Mmh. Voilà comment c'est parti. Mmh. Alors, les stages, j'en anime aussi maintenant au CLIO, donc le Conservatoire Contemporain de Littérature Orale, dont le directeur est Bruno de la Salle et qui se trouve donc à Vendôme. Et je vais là-bas depuis 15 ans, tous les mois, puisque Bruno a créé cet atelier Fahrenheit, qui porte bien son nom, avec une quinzaine, une vingtaine de personnes, de conteurs qui travaillent ensemble. Maintenant, il y en a un petit peu moins. Et voilà, donc j'ai continué à travailler en relation
moi,
avec...
Tu vois, par exemple, en discutant avec la dame ce matin là, du magasin, là, quand je lui ai dit « je vais interviewer une conteuse », je lui aurais dit « je vais interviewer un extraterrestre ». Ça aurait été pareil. Elle me dit « mais ah bon ? Mais il y a des gens qui racontent des histoires, mais pourquoi faire ?»
Ah pourquoi faire ? Mais c'est une source de joie. Pendant qu'on raconte, le temps s'arrête, je crois.
Là, tu es une femme joyeuse.
Oui, apparemment, quand je raconte, ça va bien. Je devrais raconter plus souvent. C'est ce que je me dis. Non, non, c'est vrai, parce que pendant qu'on raconte, on s'oublie soi-même. On incarne sa parole, on incarne ses personnages, on a bien trop à se préoccuper de son histoire, on regarde ce qui se passe, et du coup, on laisse tous ses soucis dans les coulisses.
Il y a plein de gens qui pensent que le conte, c'est un truc, un vieux machin dépassé, mais... que c'est un truc de bonne femme.
Mais c'est ahurissant. C'est très dommage. D'ailleurs, en ce moment, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que le conte merveilleux, notamment, est un petit peu, comment dirais-je, oui, considéré comme ringard ou je sais pas quoi, et j'ai peur qu'on le remette au placard. Et c'est très dommage parce que le Conte Merveilleux contient toutes les grandes questions essentielles de l'humanité. Tous les grands thèmes sont traités là. Les questions existentielles de l'humanité, elles sont dans les Contes Merveilleux. Et justement, moi, ce que j'apprécie dans les Contes Merveilleux, c'est que la symbolique les rend supportables. Parce qu'en fait, ces contes merveilleux, entre guillemets, sont souvent épouvantables et atroces. Le héros peut mourir, être coupé en morceaux. Enfin, il se passe des trucs épouvantables dans les contes merveilleux. Il y a vraiment une espèce de suspense. Il peut y avoir des choses très noires. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à la catharsis. Ça, c'est important, comme dans les tragédies grecques. Ça permet aux gens, grâce à cette symbolique qui crée une certaine distance, de s'investir un petit peu dans les héros et de vivre des pulsions mauvaises, des pulsions négatives par personne interposée. Donc pour moi, c'est pratiquement une thérapie. C'est en même temps très salutaire, voilà. Aussi bien pour la personne qui raconte que pour celle qui écoute. Mais moi, je suis persuadée que chaque personne a un conte merveilleux, comme moi, la Belle et la Bête, un type de conte merveilleux qui la concerne et qui lui convient particulièrement et à laquelle elle pourrait pas échapper. Et moi, si j'étais psychothérapeute, je n'inventerais pas des histoires fabriquées comme ça existe pour tel ou tel cas clinique. J'alimenterai mes patients en contes, merveilleux notamment, jusqu'à ce qu'ils trouvent celui dont ils ont besoin. Celui qui leur fera du bien, qui va les aider à surmonter des choses et à mieux se connaître aussi. Parce que raconter, c'est aussi se connaître, faire des découvertes sur soi. C'est ça qui est magnifique. Et puis ça crée une empathie avec les gens. Il y a une relation qui se noue entre le public et le conteur qui est totalement magique, enfin qui est inexplicable.
Si tu devais laisser un message aux conteurs, aux gens qui veulent devenir conteurs ou aux gens qui sont des tout jeunes conteurs, tu leur dirais quoi ? Si tu devais leur donner un conseil de la sage...
Eh bien, je leur dirais d'être eux-mêmes, de ne pas avoir peur de l'émotion. Enfin, parce que c'est ça, moi je crois que les contes merveilleux, les gens n'osent pas les raconter parce qu'ils pensent que c'est pas facile, c'est vrai, parce qu'on peut pas tricher dans un conte merveilleux. On peut pas être dans la séduction, faire des fantaisies. Dès qu'on est dans la dérision, on est dans la parodie. Et c'est ça que je reproche de nos jours. Beaucoup de jeunes conteurs, ils veulent peut-être actualiser. Bon, ils ont peut-être raison de mettre le conte au goût du jour, mais du coup, ça tombe dans la parodie, dans la dérision. Et du coup, ben, le conte n'existe plus. Le conte merveilleux, il est terminé. Avoir le courage, pourquoi c'est peut-être un drame, mais on peut dire le conte merveilleux se termine toujours bien. C'est une école, pour les enfants, pour moi, c'est essentiel de leur raconter des contes merveilleux. C'est une école de la vie, c'est leur montrer un chemin plein de difficultés, comme la vie l'est généralement pour tout le monde, mais qu'avec du courage, en acceptant des aides, ça j'ai trouvé ça dans les contes aussi, qu'il faut savoir accepter les aides qui se présentent, avec du courage, de la ténacité, et... Une certaine ouverture du cœur, eh ben on s'en sort, on peut tout surmonter.
Au conteur, tu dirais ça, d'avoir le courage d'aller rencontrer les contes pour de vrai ?
Ah oui, totalement. Moi, je pense qu'un grand conteur... il y a des gens que j'admire beaucoup, qui sont très drôles, mais c'est pareil, ça... Comment dirais-je ? Ça touche moins. C'est des facéties, on s'amuse, mais après, qu'est-ce qu'on en retire ? Ça nous a pas touché profondément.
Un grand conteur, alors, c'est quoi ?
Et de toute façon, il y a un conseil que je donnerais aussi. Attention, quand on voit trop le conteur, on voit plus l'histoire. Ça, c'est sûr, à tous les coups. Et j'en connais beaucoup qui sont trop dans la séduction, dans les effets, etc. Résultat, on s'amuse bien, on passe un bon moment, puis quand on sort, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté au juste ? Pour moi, c'est pas bon signe. Et là, je voudrais rendre un hommage à Bruno de la Salle quand même, parce que c'est lui, en fait, qui est mon maître, pourrait-on dire, et que je connais depuis si longtemps. Et j'ai quand même été un certain temps, maintenant je suis à Fahrenheit, mais même dans le temps, il m'avait quand même pas mal conseillé. Eh bien, lui, quand il racontait ses contes comme tout le monde, maintenant il raconte surtout des épopées, j'avais des images faramineuses. Je n'ai jamais pu débusquer sa technique, mais le conte se déployait devant moi. J'avais des images faramineuses et en sortant, je pouvais raconter l'histoire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est ce que je cherche chez un conteur. C'est pour moi une façon de les départager quelque part. Parce que sinon, c'est bien joli, on fait le clown, quoi. Mais moi, pour moi, c'est pas ça. Je pense que le conteur a une fonction beaucoup plus importante. Comme je le disais, je pense qu'il l'avait dans le temps d'ailleurs aussi. Dans la société, c'est aussi un témoin, c'est aussi quelqu'un qui dénonce des injustices. Enfin, la parole du conteur, elle est importante, même politiquement parlant, si j'ose dire, quoi.
Aujourd'hui aussi, tu dirais, le conteur devrait réfléchir à trouver quelle est sa place, sa parole, sa fonction.
Moi, je pense qu'on est responsable de sa parole, absolument. Il faut en avoir conscience de ça. On ne peut pas donner une histoire comme ça. Il faut être d'accord avec ce qu'on dit déjà. Il faut partager ce qui est véhiculé. Mais ce n'est pas si simple.
Mais ce n'est pas si simple. Parce que je discutais l'autre jour avec une bibliothécaire justement qui me disait, tu vois, moi je ne peux pas, le genévrier par exemple, jamais je pourrais raconter une chose pareille. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé.
Oui, mais justement la symbolique permet de pouvoir accepter des choses comme ça. Parce que comme je le disais, il y a des choses terribles dans les contes. Mais comme c'est sous une forme imagée et symbolique, on peut l'entendre. Alors que quand on entend certaines choses à la radio, qu'on lit certains faits divers dans le journal, il y a un rejet, on ne le supporte pas. C'est trop cru, c'est trop, ça agresse. Alors que dans le conte, ça touche plus profondément. Ça a l'air comme ça, imagé, poétique, et puis paf, en fait, voilà. On va puiser des forces obscures qu'on a tous en soi, on a notre part d'ombre. Et le conte permet justement de l'utiliser et sans dégâts, si j'ose dire, quoi. Je vais pas aller tuer quelqu'un. Il vaut peut-être mieux que je raconte l'histoire où quelqu'un tue quelqu'un.
Donc le conte, c'est un truc qui a de l'avenir, à ton avis.
Comment? Le conte? Mais pour moi, il est indispensable. Si on perd le conte, mais qu'est-ce qu'on va perdre toute notre humanité, comme on perd déjà tellement de choses en ce moment. En plus, ça rétablit la communication. Enfin, moi, j'espère qu'il ne disparaîtra pas. S'il disparaît, ça sera très grave, je pense. Mais il y aura toujours des gens pour le défendre. Le problème, c'est de trouver des endroits où on puisse se produire. Maintenant, on peut aussi aller dans la rue. Je connais des conteurs comme Alain Gossel qui allait raconter dans les squares. On peut aussi aller dehors, raconter dans la rue, n'importe où. Le conte a sa place partout, dans un anniversaire, dans un mariage. Toutes les occasions, dès que des gens se rassemblent, on peut raconter des histoires. Enfin, moi, en tout cas, tant que je serai en vie et que je serai capable de parler et d'avoir un minimum de mémoire, je pense que je continuerai à défendre, pour moi, cette cause admirable. Voilà, je pense.
Merci beaucoup, Annie.
On va trouver un bistrot.
Bah oui, oui, oui. Alors écoute, moi je te propose, puisqu'on ne peut pas aller au Moulin de la Galerie.
Bon voilà, les amis, on va laisser les deux conteuses, Angel Goduchot et Annie Kiss, aller prendre un bon repas bien mérité, tout près de la rue Le Pic, rue des Abbesses. Et en attendant de vous avoir au bout des ondes, salut et rendez-vous à la prochaine émission.